L'invité de BFM Politique aujourd'hui, c'est Maud Bréjon, porte-parole du gouvernement. Bonjour Maud Bréjon.
Bonjour.
Je m'arrête un instant sur la cérémonie qui vient de s'achever à Arras. Aujourd'hui, on en est où en matière de radicalisation terroriste? Est-ce que c'est les adolescents qui sont particulièrement sous le coup de la vigilance de ce gouvernement?
D'abord, c'est une cérémonie qui est extrêmement émouvante et je commencerai bien sûr par avoir un mot pour la famille, pour ses proches, pour tout ce monde éducatif qui est évidemment encore aujourd'hui en deuil. Néanmoins, cette cérémonie montre aussi que la République est plus forte et que la République se tient debout face à ceux qui essaient de l'attaquer, face à l'islam politique qui aujourd'hui encore continue de tenter d'avoir atteinte à notre laïcité, à notre République.
Ça reste un point de vigilance.
Et notamment à travers notre école. C'est évidemment un point de vigilance de tous les instants. La ministre de l'Éducation nationale, Anne Jeuntet, rappelait pour autant ce matin dans les colonnes de la Tribune que le nombre d'atteintes à la laïcité en septembre 2024 a considérablement baissé par rapport au même mois l'année précédente en 2023. On est passé, je crois, de 838 atteintes il y a un an à un peu plus d'une centaine aujourd'hui. Ça a été permis grâce aux décisions politiques qui ont été prises par Jean-Michel Blanquer, par Gabriel Attal, évidemment, avec l'interdiction du port de l'abaya. Il y a encore beaucoup de chemin à faire. Il y a une prise de conscience politique qu'on doit continuer à mener. Mais moi, je suis là pour vous dire que nous ne lâcherons rien.
Maud Bréjon, je vous présente à mes côtés Amandine Atalaya, éditorialiste politique à BFM TV, qui va vous interroger à mes côtés. Je vous présente également Jules Pecknard de la Tribune Dimanche, qui est partenaire de cette émission. Jules, précisément sur cette interview que vous évoquez d'Anne Jeuntet dans les colonnes de la Tribune.
Oui, Maud Bréjon, donc cette interview d'Anne Jeuntet dans les colonnes de la Tribune Dimanche, également concomitante l'interview de son collègue, de votre collègue Othmane Nasrou, en charge de la citoyenneté, dans le journal du dimanche, qui pointe, lui, un nombre de mineurs radicalisés en forte hausse. Alors, on comprend que les deux propos sont complémentaires, mais ils ne disent pas totalement la même chose. Est-ce que, d'après vous, le phénomène est réellement sous contrôle ?
Le phénomène doit toujours,
de la radicalisation, ouais,
doit toujours continuer à être combattu. Il ne s'agit pas de mettre la poussière sous le tapis. C'est le sens des propos et d'Anne Jeuntet et d'Othmane Nasrou. Il ne s'agit pas de se voiler la face. Il s'agit d'arriver à agir. Et moi, je le redis, il y a eu des dispositions extrêmement sérieuses qui ont été prises par Jean-Michel Blanquer et par Gabriel Attal. Mais il reste encore du chemin. Il reste encore du chemin et c'est ce que dit, je pense, Othmane Nasrou dans son interview.
Après l'attentat d'Arras, Gabriel Attal, qui était alors ministre de l'Éducation nationale, avait dit qu'il fallait s'occuper des mineurs radicalisés dans les établissements scolaires et les en sortir par mesure de précaution, ceux qui étaient le plus radicalisés. On n'entend plus parler aujourd'hui de cette mesure. Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que ce projet est abandonné ou est-ce que Bruno Retailleau reprend cette idée qui, à l'époque, paraissait urgente et essentielle?
C'est toujours à l'étude. Moi, ce que je retiens essentiellement des propos de la ministre de l'Éducation nationale, c'est d'abord la nécessité d'accompagner le monde éducatif.
Mais sur cette mesure précise de sortir des mineurs radicalisés des établissements scolaires.
Elle annonce notamment l'augmentation
du
nombre d'heures de formation à la demande même des enseignants et du monde éducatif. Je pense que c'est une très bonne chose. Et ensuite, il faut de toute façon avoir un suivi de tous les élèves dont on a détecté une situation de radicalisation. Mais c'est aujourd'hui réalisé. C'est aujourd'hui réalisé par le ministère de l'Intérieur. C'est suivi par les rectorats. Est-ce que cette mesure-là serait mise en œuvre? C'est aujourd'hui pas encore décidé. C'est encore à l'étude. Et donc, on aura l'occasion d'y revenir. Mais je note, moi, encore une fois, que des actions très concrètes ont été réalisées, qui ont donné des résultats, et c'est le sens de la baisse drastique du nombre d'atteintes à la laïcité, ce dernier mois. Et je prends acte du chemin qu'on doit encore faire.
Qu'est-ce qui a été réalisé concrètement sur les mineurs radicalisés depuis l'attentat d'Arras?
Je vous parle des atteintes, pardonnez-moi, des atteintes à la laïcité, et notamment des décisions qui ont été prises par Gabriel Attal.
Mais chacun voit bien, pour bien comprendre, quand vous dites les décisions prises par Gabriel Attal, vous évoquez notamment l'interdiction de l'abaya et du camis à l'école, par exemple.
Chacun voit bien que Bruno Retailleau a une détermination qui est absolue sur ces sujets, sur les sujets de radicalisation et plus globalement pour garantir la sécurité des Français, la sécurité des élèves, la sécurité des enseignants, et qu'il ne cédera pas un centimètre sur la question. Et je crois qu'aujourd'hui, sa volonté et sa détermination est une évidence pour tout le monde.
Puisqu'on parle de Bruno Retailleau, plusieurs mesures sont à l'étude, à la fois de son côté et du côté du ministre de la Justice, Didier Migaud, qui, à propos des mineurs, dit envisager de lever l'excuse de minorité ce qui permet d'avoir des peines plus lourdes pour certains mineurs, et de l'écarter en fait au cas par cas. Qu'est-ce que ça change, cette proposition de Didier Migaud, dans la mesure où en fait c'est déjà le cas aujourd'hui, puisque les juges peuvent précisément au cas par cas lever l'excuse de minorité pour les mineurs entre 16 et 18 ans. Quel est l'apport ou la nouveauté ?
D'abord, Bruno Retailleau, puisque vous ouvrez votre question là-dessus, fait, je pense, aujourd'hui un constat, quel constat partagé par une très large majorité de Français. Que dit Bruno Retailleau ? Bruno Retailleau dit, en matière de sécurité, on a encore du chemin à faire, et partout où vous allez en France, les Français vous le disent. Bruno Retailleau dit ensuite, et on y viendra après, on doit avancer sur le contrôle de l'immigration, et notamment de l'immigration clandestine.
On va y venir après, oui, tout à fait.
Mais une fois qu'on a dit ça, on voit bien qu'on a en France aujourd'hui un travail à mener pour se doter d'un meilleur arsenal juridique, et ça passe par une réflexion sur l'atténuation de l'excuse de minorité. On en discutera au sein du gouvernement, on en discutera au sein du Parlement, mais face à des phénomènes de violence qui touchent des jeunes de plus en plus jeunes et avec des niveaux de violence de plus en plus importants, chacun, je crois, comprend bien, et ce n'est pas une question de droite ou de gauche, c'est juste une question de bon sens, qu'il faut qu'on fasse évoluer la législation.
Oui, mais ce que je voudrais comprendre, c'est au-delà des mots, qu'est-ce que ça change concrètement, encore une fois, puisque les juges peuvent déjà lever l'excuse de minorité au cas par cas ?
Eh bien, on étudiera une possibilité d'avoir une levée automatique, par exemple, de cette excuse de minorité, et voir jusqu'où est-ce qu'on peut la lever. Est-ce que c'est 16 ans ? Est-ce que c'est en dessous ? C'est des débats qui auront lieu au Parlement. Nous avions nous-mêmes, il ne s'agit pas de la supprimer, il s'agit de l'atténuer. Nous avions nous-mêmes ouvert la porte à cette réflexion-là. C'était une demande qui a été formulée par le groupe de la droite républicaine de Laurent Wauquiez, qui, je comprends, fait débat.
Gabriel Attal avait repris l'idée, mais ça n'a pas avancé pour le moment. D'où la question que peuvent se poser les Français.
Parce que le gouvernement a été formé il y a quelques semaines. Néanmoins, l'annonce a été faite et par le Premier ministre et par Didier Migaud d'une réflexion qui allait être menée en ce sens. Je crois qu'encore une fois, il y a des attentes de davantage de fermeté et d'efficacité en matière de justice en France qui sont indéniables. Il faudrait être sourd pour ne pas entendre ce que nous demandent les Français. On peut, en sortant de l'émission, si vous voulez, je vous emmène au marché d'Antony sur ma circonscription.
On les entend
et
tous les
vous
jours.
Vous les entendez, hein. Je le sais bien, sur les micro-trottoirs que vous faites, et plus globalement, j'imagine, dans chacun, dans nos entourages. On ne peut pas rester aveugle face à cette demande-là. On ne peut pas rester aveugle.
Maud Bréjon, vous dites que les Français sont en demande de plus de sécurité. Le pôle sécurité, il fonctionne par le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice. Le ministre de la Justice, précisément, il s'est plaint cette semaine d'un budget, dit-il, pas à la hauteur dans les chiffres, dans la copie initiale, tout du moins celle qui a été présentée. Je dis dans la copie initiale, puisque vous allez me dire que ça va être réécrit au Parlement. Mais dans la copie initiale, on voit que le ministère de la Justice doit renoncer à peu près 500 millions d'euros dans son budget 2024, quand dans le même temps, la police, le ministère de l'Intérieur, récupère 587 millions d'euros de crédits supplémentaires donnés plus à la police et moins à la justice. Est-ce que c'est un choix politique ?
Alors, je voudrais être très claire. Nous conservons et nous avons une attention toute particulière à l'ensemble des ministères régaliens. Le budget de la justice ne sera pas en baisse par rapport à ce que c'était par rapport au budget de l'année précédente.
Il doit renoncer à 500 millions d'euros qui étaient prévus d'augmentation.
Et le projet de loi de finances tel qu'il est aujourd'hui prévoit notamment la création de plus de 600 emplois supplémentaires dans le domaine de la justice. Donc non, nous ne sommes pas en baisse.
C'est moins que ce qui était prévu.
Maintenant, il y a un effort national qui est demandé à l'ensemble des ministères. Mais je vous garantis aujourd'hui, pour avoir bien regardé ce projet de loi de finances, que la justice, l'intérieur et la défense sont particulièrement épargnés parce que, encore une fois, on estime que c'est un sujet absolument prioritaire, qu'il y a des enjeux qui sont colossaux et parce que, simplement, on a entendu les demandes exprimées par les Français lors des élections législatives et que ces demandes, pour beaucoup, reposaient sur davantage d'ordre et davantage d'efficacité en matière de justice.
Mais pour l'instant, ce que dit Didier Migaud, c'est que vous demandez plus d'efforts à la justice et un peu moins à l'intérieur.
Non, il y a une augmentation du budget de la justice qui sera réelle l'année prochaine. Ouais. Et je note d'ailleurs, sans dévoiler de secret, que le Premier ministre et que Laurent Saint-Martin sont restés, bien sûr, le ministre du budget, se sont montrés ouverts à des évolutions en faveur d'un plus haut budget pour la justice lors du débat parlementaire. On ne rentrera pas et je ne rentrerai pas ici dans les chiffres, mais j'ai aussi entendu Didier Migaud évoquer des échanges qu'il avait pu avoir avec le Premier ministre et le ministre du Budget et se disant ainsi confiant d'une évolution qui irait dans le bon sens.
Donc il n'y a pas de sacrifice demandé particulier à la justice par rapport aux autres ministères.
On ne pourra pas reprocher à ce gouvernement d'avoir sacrifié quelconque ministère régalien. La sécurité des Français et l'efficacité de la justice sont pour nous une priorité absolue, parce que c'est aujourd'hui une priorité absolue pour les Français.
Un mot sur Bruno Retailleau. Est-ce que vous êtes 100% à l'aise avec tout ce qu'il dit, y compris lorsqu'il dit que l'état de droit n'est pas intangible?
Vous savez, moi j'entends beaucoup de caricatures à l'encontre de Bruno Retailleau depuis sa nomination, depuis deux ou trois semaines.
Le Rassemblement National dit, il parle comme un porte-parole
Attendez. Que dit Bruno Retailleau, encore une fois? Bruno Retailleau dit, on doit garantir davantage de sécurité pour le français et on doit continuer à reprendre le contrôle des flux migratoires. Bruno Retailleau est en fait extrêmement lucide. Et il fait là un constat de bon sens, mais qui est le constat qui, je crois, a été formulé par une large majorité de Français. Et vous le voyez, je pense, dans les échanges que vous pouvez avoir aussi. Et face à ça, il fait des propositions. Mais pardonnez-moi, Bruno Retailleau, qui a pour mission de garantir la sécurité des Français, ne va quand même pas devoir s'excuser d'avoir des idées.
Donc vous êtes à l'aise avec tout ce qu'il dit pour répondre à la question d'Amandine.
Il fait des propositions sur les trois échelles qui apparaissent comme pertinentes en la matière, à savoir l'international, avec un bras de fer qui doit être assumé pour obtenir les laissez-passer consulaires avec les pays d'origine, au niveau européen, avec une mise en œuvre la plus rapide possible du pacte asile-immigration qui doit permettre, je termine, de contrôler davantage les frontières européennes, et des propositions formulées, on y reviendra je pense sur le niveau national, qui appelleront de nouvelles dispositions législatives.
C'est-à-dire, il va y avoir une nouvelle loi immigration, pour parler clairement ?
Il faudra une nouvelle loi immigration pour adapter un certain nombre de dispositions. Et je me permets de prendre quelques minutes pour les expliquer.
À quelle échéance?
Bruno Retailleau a, par exemple, mis sur la table une proposition qui doit permettre de faciliter la prolongation de détention des étrangers en situation irrégulière qui présentent des profils dangereux dans les centres de rétention administrative. Il propose que les profils les plus dangereux puissent être maintenus en détention, non pas au maximum 90 jours comme c'est le cas aujourd'hui, mais jusqu'à 210 jours. Pour le faire, on a besoin d'une loi. Ça passe par du législatif, c'est pas du réglementaire. Et donc on présentera ces propositions législatives plutôt en début d'année 2025. Et on ne s'interdit pas, au sein de ces propositions législatives, d'y mettre d'autres dispositions qui, encore une fois, nous apparaîtraient au sein du gouvernement et avec les discussions qu'on aura avec les groupes parlementaires comme utiles pour protéger les Français.
Il ne doit y avoir,
Neil à la trousse, aucun tabou en matière de protection.
Juste, vous êtes en train de nous dire qu'il y aura une nouvelle loi immigration début 2025, notamment pour augmenter la durée de détention dans les centres de rétention administrative. C'est une annonce.
C'est précisément ce que je viens de vous dire. Et on ne s'interdit pas de réfléchir à d'autres dispositions qui pourraient être proposées dans cette loi. Ça se fera dans le cadre de discussions au sein du gouvernement. Ça se fera dans le cadre de discussions avec les groupes parlementaires, à l'Assemblée et au Sénat.
Mais quelle piste ? Est-ce que vous pouvez nous citer un ou deux exemples de ce qui pourrait aussi être dans cette loi en début d'année, à l'étude ?
Aujourd'hui, on parle essentiellement de la prolongation de la durée de détention dans les centres de rétention administrative. Nous n'avons pas pris de décision supplémentaire. Pour autant, on entend, d'une part, nos compatriotes qui nous demandent de continuer à agir, et puis des groupes parlementaires
qui font des propositions. Ce n'est pas du législatif,
c'est
justement
du réglementaire.
Ça, alors, pour expliquer à ceux qui nous écoutent, c'est-à-dire que ça a occasionné une baisse du nombre de régularisations des sans-papiers via des critères à la fois familiaux de travail. Bruno Retailleau a dit que via une circulaire, il comptait la remettre en cause, donc ça ne passe pas par le Parlement. Donc ça, vous persistez, c'est hors débat parlementaire, même si certains dans votre majorité n'étaient pas contents de ne pas être consultés à ce sujet.
On agit, et c'est le cas de l'ensemble des gouvernements qui nous ont précédés, par voie législative et par voie réglementaire. Les deux ne sont pas incompatibles. La circulaire Valls, c'est quoi ? La circulaire Valls, qui a été prise fin 2012, c'est une possibilité encadrée et discrétionnaire qui est donnée au préfet pour régulariser environ 30 000 personnes par an sur la base de critères précis qui touchent à la famille, qui touchent au travail et qui touchent aux études. L'année dernière, 34 000 personnes ont été régularisées dans le cadre de cette circulaire. 22 000 sur des critères familiaux, 12 000 sur des critères de travail et environ 1 000 000 sur des critères liés aux études. Bruno Retailleau, et il a raison de le dire, affirme que ces régularisations doivent être aujourd'hui davantage encadrées, et donc la circulaire ne sera pas supprimée, elle sera remplacée avec des critères qui seront davantage restreints, et notamment sur des critères de régularisation dus au cadre familial.
Ça, c'est pour la circulaire Valls que Bruno Retailleau veut en quelque sorte réécrire ou remplacer par une nouvelle circulaire, pour rester sur la loi immigration que vous nous annoncez pour 2025. Dans les pistes qui peuvent être avancées, est-ce qu'il est question, par exemple, de reprendre des dispositions qui ont été censurées par le Conseil constitutionnel lors de la précédente loi qui avait été adoptée en décembre dernier ?
Les dispositions...
La droite y tient beaucoup, par exemple.
Voilà.
Ça prévoit notamment...
Je me permets de préciser que le Conseil constitutionnel a censuré ces dispositions pour des raisons de forme et non pas pour des raisons de fond.
Donc elles peuvent revenir dans une nouvelle loi, absolument.
Je ne voudrais pas laisser penser qu'on...
Ce n'était pas une incompatibilité avec la Constitution.
Exactement. On ne s'interdit rien.
Il y avait le durcissement du regroupement familial.
On ne s'interdit rien. Ça se fera encore une fois dans un cadre de discussion avec les différents groupes parlementaires, mais je note en effet que le groupe droite républicaine de Laurent Wauquiez avait fait des propositions en ce sens. J'irai plus loin, Hervé Marseille par exemple, qui est président du groupe UDI au Sénat, avait déposé une proposition de loi qui reprenait un certain nombre de dispositions censurées pour des raisons de forme par le Conseil constitutionnel.
À l'Assemblée nationale, si on additionne LR plus le Bloc central, on arrive à peine plus de 210 voix. Est-ce que vous allez, soyons clairs, est-ce que vous allez chercher le soutien du Rassemblement national pour faire voter cette nouvelle loi immigration ?
On ne va pas chercher le soutien du Rassemblement national. On discutera avec l'ensemble des groupes parlementaires et ça se fera, pardonnez-moi, dans un cadre de discussion, notamment avec Renaissance, avec le MoDem, avec Horizon, avec les Républicains qui aujourd'hui soutiennent le gouvernement. Je ne vous dis pas qu'on va aller négocier avec le Rassemblement national, vu
que vous allez discuter
très bien
avec
où vous voulez m'emmener.
Est-ce que vous allez discuter avec eux?
Je dis
que c'est important pour eux. Ça fait partie de leurs fondamentaux, l'immigration. C'est grâce à eux que Michel Barnier a pu passer sa première censure.
Alors là, je suis obligée pardonnez-moi de vous répondre là-dessus. Le gouvernement tient du fait des 577 députés. Le gouvernement ne tient pas du fait du Rassemblement national. Le gouvernement tient du fait de l'ensemble des députés qui ont été élus et qui représentent tous ensemble 67 millions de Français.
Mais sur le point
la voix d'un député vaut la voix d'un autre député. La seule question qui est à se poser en matière de censure, c'est y a-t-il une convergence des luttes et des objectifs entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. C'est tout. Nous ne sommes pas tributaires des voix des uns ou des autres.
Mais vous dites, Maud Bréjon, sur la loi immigration, on discutera avec tout le monde, une voix égale une voix, à ce moment-là. Ce ne sera pas une loi faite pour Marine Le Pen, de comprendre ce que vous dites.
Ce ne sera pas une voix faite pour Marine Le Pen. Mais on ne fait pas la loi pour tel ou tel groupe parlementaire. On fait la loi pour essayer de répondre concrètement à ce que nous demandent les gens. Et on s'est engagé, et Michel Barnier s'est engagé, à ce que les propositions de loi qui seront formulées dans l'avenir soient discutées avec les groupes parlementaires qui aujourd'hui soutiennent le gouvernement. Maintenant, une fois que ces lois arrivent à l'Assemblée nationale ou au Sénat, on ne va pas interdire des députés RN, mais ou la France Insoumise ou d'autres, de s'exprimer sur la question.
C'est vrai qu'ils pensent pas la même chose du tout. Leurs avis sont radicalement opposés sur le sujet de l'immigration.
Ça ne nous empêche pas d'écouter les 577 députés. Vous savez, moi je crois que, encore une fois, sans évidemment faire des accords ou sans aller chercher des voix ici ou là, on ne peut pas dire qu'on souhaite s'adresser et répondre aux préoccupations de l'ensemble des Français et refuser d'entendre ou de regarder ceux qui, par l'intermédiaire du vote que les Français ont formulé, les représentent aujourd'hui. Mais c'est aussi le cas pour les députés de la France Insoumise. Et ça ne veut pas dire qu'on cherche des accords, ça ne veut pas dire qu'on va négocier, ça veut juste dire qu'on respecte l'ensemble des Français. Et quand on respecte l'ensemble des Français, on se doit de respecter ceux qui le représentent au Parlement. Et je crois qu'en fait, chacun comprend bien ça.
Question simple, réponse j'espère simple. La précédente loi prévoyait de régulariser un certain nombre de travailleurs sans papier dans des métiers en tension. Est-ce que c'est toujours prévu ?
Et c'est toujours prévu et ça se fera dans le cadre, encore une fois, de la loi. Et les préfets le peuvent aujourd'hui.
Et quand est-ce que vous allez définir la liste des métiers en tension ? Parce qu'elle ne s'est toujours pas fait non plus.
Ce sera fait, et ça c'est un travail que mènera Bruno Retailleau dans les semaines à venir.
Et c'est quand même contradictoire avec votre objectif de baisse des régularisations sur la remise en cause de la circulaire Valls.
Non, parce que la
comment
circulaire...
est-ce que ça fait un tout
la circulaire Valls, je vous donnais les chiffres des régularisations qui avaient été réalisées l'année dernière. Les deux tiers des régularisations qui ont été réalisées dans le cadre de la circulaire Valls le sont pour des raisons familiales, ne le sont pas pour des raisons de travail. Bien entendu qu'on a besoin aujourd'hui d'une immigration du travail, Bruno Retailleau ne dit pas le contraire, mais on a au sein de cette circulaire Valls des critères notamment de regroupement familiaux qui existent et qu'il convient de restreindre.
Maud Bréjon, j'en viens au budget 2025. Le grand morceau du moment, présenté jeudi soir, oui, sans transition, j'en reviens au budget 2025, donc qui a été présenté en Conseil des ministres. On n'a pas très bien compris sur la question du gaz ce qui allait se passer. On a d'un côté la ministre de l'écologie qui dit il y aura une taxation sur le gaz au même titre que sur l'électricité. Il n'y a pas de raison de défavoriser les énergies propres en faveur des énergies décarbonées. Le ministre du budget hier dit il n'y aura pas de taxe, j'y suis défavorable. Et ils sont tous deux membres du même gouvernement que vous, Maud Bréjon. Qui croit entre les deux? Qui dit la vérité?
Il n'y aura pas d'augmentation du taxe. Il n'y aura pas d'augmentation, pardon, des taxes sur le gaz. Laurent Saint-Martin a précisé les choses hier midi. Donc moi, je vous le redis.
Donc la ministre de l'énergie s'est plantée.
C'est aujourd'hui la position qui est celle du gouvernement et l'arbitrage qui a été formulé par Michel Barnier. Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas augmenter les taxes
sur
le gaz?
Donc la ministre de l'écologie s'est trompée.
Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas augmenter les taxes sur le gaz? Cette taxe, c'est un peu technique, ce qu'on appelle la TICGN.
Bon, oui, on va éviter les acronymes.
Voilà, elle a doublé cette taxe en début d'année dernière. Ouais. Elle a déjà augmenté. Si on augmentait de nouveau cette taxe début janvier 2025, ce sont les Français qui paieraient de plein fouet l'augmentation de cette taxe. Ce qui n'est pas le cas de l'électricité.
Parce que les prix vont baisser et que l'augmentation de la taxe ne vont pas augmenter.
Notre objectif, dit autrement, c'est que les factures des Français n'augmentent pas.
Sauf que ce que dit la ministre de l'écologie...
On refuse d'augmenter les taxes sur le gaz parce qu'on ne veut pas faire payer davantage leur énergie aux Français. Ouais. Et on s'engage sur l'électricité à contenir une augmentation, une baisse des factures, au-dessus de 10%.
Ce que dit la ministre de l'écologie, c'est qu'en faisant cela, le gaz reste quand même nettement moins taxé que l'électricité, presque deux fois moins au mégawattheure. Est-ce que c'est finalement reculer sur la transition énergétique, dire, tout ce qu'on vous avait dit sur le verdissement du parc automobile, tout ce qu'on vous avait dit sur les usages électriques, tout ça est mis de côté. Finalement, l'énergie propre, coûtera toujours plus cher que l'énergie pas propre.
La transition énergétique, elle doit être acceptée et acceptable. Et pour ça, je pense que ça ne peut pas passer par de l'argent qu'on irait chercher dans les poches des Français. Vous savez, il y a 12 millions de Français qui se chauffent aujourd'hui au gaz. 12 millions de Français. Ouais. Comment pourrions-nous aller expliquer, alors que beaucoup d'entre eux ont déjà du mal à boucler les fins de mois, qu'on procède à une augmentation de la taxe début janvier qui se répercuterait directement sur leurs factures? Je suis désolée, l'écologie punitive et l'écologie qui consiste à faire payer toujours davantage aux gens, c'est pas la solution.
Cela dit, Maud Bréjon, sur... En tout cas, l'électricité, les foyers, ils sont à peu près 20%, ça fait 6 millions qui paient une électricité à taux fixe, vont voir cela à leur facture augmenter. Et parmi eux, il y a des professionnels. Enfin, on pense par exemple à des boulangers, à ceux qui s'occupent de pressing ou autre. Est-ce que vous avez prévu pour cela des aides pour compenser la hausse de leur facture?
Sur l'électricité, 80% des particuliers sont au tarif réglementé et verront leur facture, c'est notre engagement, diminuer d'autour de 10%
tout à fait
en début d'année prochaine. Concernant les 20% restants qui sont au prix de marché, ils ont en réalité déjà bénéficié des baisses depuis le début des baisses des cours de l'électricité. Donc, je comprends parfaitement votre question, mais ceux-là ont déjà bénéficié de la baisse du marché, ce qui n'est pas le cas pour ceux qui sont au tarif réglementé, puisque les tarifs réglementés vont être mis à jour en début d'année.
Voilà. Donc rien de plus n'est prévu, l'effort est assumé les concernant.
Pas dans la copie qui est celle présentée par le gouvernement, le cadrage est celui que je viens de vous donner, à savoir une baisse des factures pour 80% des Français et des baisses de factures qui ont déjà été enregistrées pour les 20% restants. Pour autant, on reste, et on l'a beaucoup dit, extrêmement ouvert à la discussion au sein du débat parlementaire, avec, je le rappelle, un cadre budgétaire sur lequel il conviendrait de revenir. Nous allons terminer l'année à plus de 6% de déficit. Nous serions à environ 7% l'année prochaine si on ne fait rien. Ça nécessite d'aller chercher 60 milliards dans un temps record, un budget qui a été réalisé en quelques semaines. C'est difficile. Moi, j'ai conscience d'être porte-parole d'un budget qui est en partie impopulaire, qui est un budget de combat, mais qui est un budget nécessaire pour redresser les finances publiques françaises. Parce que un pays qui laisse filer son déficit, c'est un pays qui va dans le mur. Et je voudrais dire autre chose. C'est un budget qui s'inscrit dans une trajectoire.
Et on va en évoquer, on va évoquer voilà. Tout cela, Maud Brégeron, il nous reste encore du temps, dans quelques instants, ces questions et toutes celles que vous posez de chez vous sur la santé, les impôts, le pouvoir d'achat. Vous restez avec nous, Maud Brégeron, à tout de suite dans BFM Politique.
BFM TV, BFM Politique. Néla Latrousse.
Toujours avec Maud Brégeon, porte-parole du gouvernement, invitée de BFM Politique en partenariat avec la Tribune Dimanche. Maud Brégeon, il y a un téléspectateur qui nous écrit sur le budget, Ignace, qui nous demande « Bonjour, est-il prévu que l'effort national soit demandé aux députés et sénateurs en réduisant leurs frais et leurs indemnités ?» Je crois que c'est la question suivante qui s'est affichée à l'antenne. Ignace demande « Est-ce que les députés et sénateurs vont réduire leurs frais et leurs indemnités au titre de l'effort demandé à l'ensemble des Français ?»
Aujourd'hui, c'est une décision qui est souveraine de l'Assemblée nationale et du Sénat. Donc, moi, j'ai pas à me prononcer là-dessus au titre de la séparation des pouvoirs entre l'exécutif et le législatif.
Néanmoins, ce sera à eux de décider.
Néanmoins, c'est évidemment à eux de décider. Ce n'est pas le gouvernement. Ce n'est pas le gouvernement qui décide. Et c'est bien normal, ce genre de choses.
Alors, question plus large, parce qu'on a déjà parlé des efforts que vous allez demander aux Français, mais les budgets de l'Assemblée nationale, du Sénat et de l'Élysée vont, eux, augmenter pour l'année 2025. Comment est-ce que vous pouvez expliquer aux Français, et c'est peut-être légitime, mais qu'ils doivent tous faire des efforts, mais que cet effort collectif ne concerne ni l'Élysée, ni l'Assemblée nationale, ni le Sénat ?
Je comprends complètement la question. Expliquer un petit peu quand même comment ça se passe derrière. Les pouvoirs publics, l'Assemblée nationale, le Sénat notamment, font leur demande de dotation lors de la construction du projet de loi de finances au gouvernement. Et au titre, encore une fois, de la séparation des pouvoirs, le gouvernement se doit d'inscrire ses demandes de crédit, ses demandes de dotation au sein du projet de loi de finances, donc du budget, sans négociation. Et il appartient ensuite à l'Assemblée nationale et au Sénat, lors des débats parlementaires qui auront lieu dans les semaines à venir, de trancher et de modifier les demandes initiales qui ont été formulées.
Mais au nom du gouvernement, vous avez...
Je comprends parfaitement votre question, je comprends parfaitement le questionnement que ça peut susciter chez nos concitoyens, mais il n'appartient pas à un ministre, encore une fois, de se prononcer sur l'avis du Parlement. Et je pense que c'est en fait plutôt sain. Du reste, qu'il y ait des augmentations dues à l'inflation, comme c'est le cas pour l'ensemble ou pour une grande majorité des budgets de l'État, ça peut aussi s'expliquer sans balayer les questionnements que ça peut susciter. Ne rentrons pas non plus dans un débat qui amènerait à une petite musique anti-politique et anti-élu. Ouais. C'est difficile d'être député. Hein, moi, je connais bien, je l'ai été pendant 2 ans.
Comme la présidente de l'Assemblée nationale, il n'y a rien à
C'est une mission de tous les instants. Ce sont des collègues qui donnent chacun beaucoup à leur territoire, qui partagent leur vie entre Paris et leur circonscription.
C'est un gras.
Je dis pas ça pour faire pleurer dans les chaumières, mais je ne voudrais pas laisser penser aujourd'hui que mes collègues à l'Assemblée nationale sont des privilégiés, parce que ce n'est pas le cas. Je veux dire, ce n'est pas le cas, d'autant plus dans une période que vous connaissez bien, où les élus sont souvent attaqués.
Vous serrez la
victime
ceinture,
parfois Maud de Brégeon. Violence verbale, parfois de violence physique. Donc attention à la petite musique qu'on pourrait laisser entendre, encore une fois, anti-politique.
Et vous avez raison de le dire, puisque les ministères, notamment, font des efforts sur leur budget. Là, l'interrogation, c'est que, y compris des ministres du gouvernement qui ont sans doute tout autant de déplacements, peut-être pas à l'international, mais qu'Emmanuel Macron, ou encore davantage de déplacements que des députés ou des sénateurs, eux font des efforts. Et je me dis, un retraité à qui on explique que pendant 6 mois, il va devoir renoncer à la revalorisation de ses pensions, comment est-ce qu'on lui fait passer l'idée qu'à l'Assemblée nationale, par exemple, il y a 10 millions de plus cette année, 10 millions de plus.
C'est encore un débat.
C'est quoi ? C'est la dissolution ?
C'est... C'est un débat. C'est un débat qui se tiendra au Parlement. Moi, je comprends l'émotion que ça peut susciter chez une part de nos concitoyens. Il y aura un débat, il y aura des discussions à l'Assemblée nationale et au Sénat. Il y a une part de ces augmentations, encore une fois, du fait de l'inflation, qui, je pense, peuvent s'expliquer. Et pour le reste, je le redis, malgré tout, parce que même si des efforts sont demandés, et notamment à ceux qui le peuvent le plus, l'État et les ministères, le budget de l'État donnera l'exemple sur les économies qui sont demandées. Sur les 60 milliards d'euros qu'il y a à trouver, 40 milliards touchent à des réductions de dépenses, et sur ces 40 milliards, 20 milliards, donc la moitié, sont un effort qui sera fait par le budget de l'État. Donc l'État montrera l'exemple et c'est bien normal.
Un autre élément qui va susciter du débat pendant cette période d'examen du budget, ce sont justement les retraites, Néla l'évoquait tout à l'heure. La non-revalorisation des retraites pendant les 6 prochains mois, donc c'est un gel de l'indexation sur l'inflation, ça peut rapporter 4 milliards d'euros, nous dit-on. On sait que l'un de vos alliés, vos principaux alliés, les Républicains, sont très opposé à cette mesure. Est-ce que vous confirmez que le Parlement pourrait trouver une alternative à cette mesure ?
Le Parlement pourra évidemment trouver une alternative à condition de proposer en face des réductions de dépenses supplémentaires. Vous savez, ça ne nous fait pas, pardonnez-moi, ce décalage de l'indexation sur l'inflation des retraites de 6 mois n'est pas une décision ou une proposition qu'on formule de gaieté de cœur, Jules Pecnard. On n'est pas heureux de faire cette proposition-là. On maintient l'indexation des retraites sur l'inflation, c'est un engagement. La retraite minimale sera revalorisée dès janvier, comme c'était prévu. Du reste, on demande effectivement un effort de 6 mois, mais qui est un effort qui nous semble aujourd'hui nécessaire. Maintenant, si le Parlement a des propositions à formuler pour rester dans le cadre budgétaire des fameux 60 milliards, mais permettre de baisser davantage de dépenses ici ou là, on sera parfaitement ouvert.
Est-ce qu'il peut y avoir une piste, par exemple l'abattement de 10% sur les pensions et les retraites, ça pourrait rapporter plus de 4 milliards d'euros, est-ce que ça peut être une piste ?
L'abattement pour frais professionnels, dont bénéficient les retraités, abattement de 10%. C'est vrai qu'on entend ce débat dans le bloc central. Certains disent...
Tout sera discuté.
Pourquoi il y a des abattements
pour professionnels ? Et moi, j'entends beaucoup de propositions.
Donc ça peut être discuté. Vous dites, vous n'êtes pas fermé à ce type de proposition.
Nous, on n'est pas fermé par principe, vous savez. Il y a encore une fois un budget, qui est un budget difficile à construire, en un temps record. Michel Barnier, Laurent Saint-Martin, notre gouvernement, on met des propositions sur la table. Au fond, on formule une équation qui marche, une équation qui nous semble équilibrée et qui nous semble juste, qui n'est pas facile à réaliser, mais qui nous semble juste. Avec un effort principal sur la réduction des dépenses et des contributions, pardonnez-moi, ciblées et temporaires, notamment pour ceux qui le peuvent le plus. Du reste, on étudiera, et c'est normal, c'est le débat parlementaire, toutes les propositions qui seront formulées à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et le gouvernement se positionnera et prendra le temps de le faire sur chacun des amendements et acceptera les amendements qu'il estime être bons pour le pays, avec deux lignes rouges. La première, c'est le maintien du cadre budgétaire tel qu'il est présenté, redresser les finances publiques, c'est protéger les Français et c'est protéger le pays à moyen terme, et en préservant autant que possible les classes moyennes qui travaillent.
Puisque tout est ouvert à la discussion parlementaire, est-ce qu'il peut y avoir à l'issue des débats moins de 4000 suppressions de postes, par exemple dans l'éducation nationale ? Ça aussi, cela fait partie des éléments ouverts à discussion ?
Mais, en fait, je vous le redis, nous ne sommes pas fermés par principe. La méthode Barnier, c'est aussi accepter d'avoir un gouvernement qui formule des propositions mais qui n'arrive pas avec un dossier qui serait fixé, qui serait figé, sur lequel aucune discussion serait possible.
Mais je vous repose cette question, Audrey Jean, parce que vous entendez bien les syndicats d'enseignants, vous entendez bien la communauté éducative qui s'est émue de ces suppressions de postes. Donc leur dire « ça peut bouger à l'issue des débats », c'est un élément aussi important et de confiance pour eux.
Mais le principe d'un débat parlementaire, c'est de permettre à un projet de loi, que ce soit le budget ou n'importe quel autre, de pouvoir être amendé. Le droit d'amendement pour les parlementaires, c'est constitutionnel. Donc bien sûr qu'on est ouvert à faire évoluer ce projet de loi. Ce qu'on dit, c'est que notre responsabilité, c'est de redresser la trajectoire des finances.
Maud Bréjon, sur cette mesure précise, cette idée de supprimer 4000 postes d'enseignants, les enseignants peuvent se demander, Michel Barnier avait dit qu'il s'agissait uniquement de réduire un nombre de postes de fonctionnaires qui n'étaient pas en contact avec le public. Alors, les enseignants déjà sont en contact avec le public, donc première contradiction. Et deuxièmement, tous les enseignants savent que en Europe, nous avons les classes les plus chargées en primaire et au collège. Donc, est-ce que ça n'est pas une priorité pour vous que ça se passe mieux, de décharger un peu les professeurs aujourd'hui au regard de ce que font nos collègues européens ?
L'école est une priorité absolue et je ne voudrais pas qu'on puisse penser le contraire. Néanmoins, il y a des faits démographiques qui sont extrêmement factuels. Nous aurons l'année prochaine près de 100 000, 96 000 élèves scolarisés en moins. Si on suivait cette courbe démographique à la lettre, c'est 4 800 enseignants de moins dotés dans les écoles l'année prochaine. Bon, déjà, on est, si je puis dire, un peu mieux disant par rapport à ce que le suivi de la démographie nous amènerait à faire. Et ensuite, il n'y aura pas, pardonnez-moi, de décision brutale. Il y aura des discussions à l'Assemblée nationale, il y aura des discussions avec le monde enseignant pour qui on a un respect total et absolu, et les choses se feront en bonne intelligence. D'ailleurs, en parallèle, et on n'en parle pas suffisamment, mais le gouvernement a annoncé, et nous avons annoncé, la création de 2000 places d'aide, d'aidants, d'AESH supplémentaires. J'aimerais qu'on puisse aussi un petit peu en parler et le mettre en valeur.
Les élèves
en situation de handicap qui sont intégrés dans des classes ordinaires. Et c'est autant de vies d'élèves et de familles derrière qui changeront. Donc on essaie vraiment, dans le cadre budgétaire contraint qui est le nôtre, de préserver ce qui est ce joyau de l'éducation nationale.
Je vous arrête là-dessus. Est-ce qu'il n'y a pas une dissonance entre ce que vous dites, qui dans les chiffres paraît tomber sous le sceau du bon sens, et ce qu'a dit Michel Barnier lui-même, ce qui correspond au ressenti du terrain? Il a dit lui-même dans sa déclaration de politique générale, nous devons trouver des réponses aux défis posés par le remplacement des professeurs absents. Est-ce que cette suppression de 4 000 postes, est-ce que ça colle avec cette réalité ressentie sur le terrain? Néanmoins,
on entend parfaitement ce qui est ressenti sur le terrain. Vous savez, moi, je l'entends dans ma circonscription, par les enseignants et par les familles et par les élèves. Mais on a aujourd'hui des chiffres, encore une fois, 100 000 élèves en moins à la rentrée prochaine, qui, je crois, justifient qu'on mette en adéquation le service public avec la réalité du terrain. Je lisais d'ailleurs, avant de venir, François Bayrou, qui porte une attention très particulière à l'école, qui a été ministre de l'Éducation nationale, expliquer dans des colonnes de vos confrères du JDD qu'il comprenait cette décision. Donc, ne surréagissons pas, on est encore une fois en amont des débats, les choses pourront évoluer, l'école est évidemment une priorité absolue du gouvernement parce que c'est l'assurance vie de la République, et il y a des données aujourd'hui factuelles avec des élèves en moins l'année prochaine, et c'est, je pense, normal, et c'est du bon sens qu'on puisse les intégrer.
Brièvement, Maud-Brégeon, ce sont des suppressions de postes concertées avec les collectivités ? C'est-à-dire que ça sera par 4 000 sur l'ensemble du territoire, ou il faudra regarder où est-ce qu'il y a plus de besoins, où est-ce qu'il y en a moins ?
Ce sera évidemment concerté, mais nous n'avons pas une approche bête et méchante de la question. Ce sera concerté avec les collectivités, ce sera concerté avec les associations, avec les syndicats d'enseignants, et c'est normal de le faire comme ça. Nous n'avons pas pour volonté de brutaliser quelque institution que ce soit. Nous avons un contexte aujourd'hui qui n'est pas le même que celui qu'il était l'année précédente ou l'année d'encore avant, et on essaie de faire au mieux avec les ressources qui sont les nôtres.
Je poursuis sur les préoccupations des Français et de ceux qui nous regardent, la santé. Est-ce que se soigner coûtera plus cher l'an prochain ?
Se soigner est évidemment est également une priorité.
Ça fait aussi partie des priorités qui avaient été annoncées par Emmanuel Macron.
Oui, et d'ailleurs,
question simple, ça coûtera plus cher, ça ne coûtera pas plus cher ?
Le budget de l'assurance maladie sera en hausse l'année prochaine. Le budget de l'assurance maladie sera en hausse d'un peu moins de 3%. Ça représente 9 milliards d'euros. Il y a des réflexions qui sont menées, qui sont incluses dans le projet de loi de finances de la Sécurité sociale, notamment sur la question des indemnisations journalières pour des cas d'absentéisme. C'est, je pense, une réflexion légitime. Mais nous resterons, et je le dis aujourd'hui, un des pays, par exemple, avec le reste à charge, le plus faible de tous les pays de l'OCDE. Donc, Il faut quand même, pardonnez-moi.
Le reste à charge, c'est ce que payent les mutuelles.
Il faut raison garder sur la question.
Mais oui. Néanmoins, les mutuelles vont certainement, comme il y aura une baisse du remboursement par la Sécurité sociale du montant des consultations, les mutuelles vont devoir compenser. Donc, est-ce que vous savez que ça va toucher particulièrement les seniors ou bien ceux qui, par exemple, ont des affections longue durée? Ceux-là, qu'est-ce que vous leur dites aujourd'hui pour... Est-ce que vous essayez même de les rassurer ou est-ce qu'il faut qu'ils admettent qu'ils doivent contribuer à l'effort eux aussi?
En sachant, pour compléter, que les mutuelles ont augmenté leur cotisation, le prix de leur cotisation, de 8% ouais. l'année dernière. Mais,
on est parfaitement au fait et lucide sur la situation et on s'engage à ce que ces modifications qui interviendront dans le cadre du projet de loi de finances de la Sécurité sociale n'impactent pas les plus fragiles et notamment ceux qui sont aujourd'hui dans le cadre d'infections de longue durée.
C'est-à-dire vous demandez aux mutuelles d'être raisonnables dans l'augmentation des tarifs par exemple?
Il y aura évidemment une discussion avec les mutuelles. De quoi on parle? On parle de ce qu'on appelle le ticket modérateur. C'est la part de remboursement qui touche à la sécurité sociale contre la part de remboursement qui touche aux mutuelles. Une évolution, effectivement, pourra avoir lieu de façon à demander aux mutuelles de supporter une charge un peu plus importante. Ça se fera en discussion avec elles et le gouvernement sera extrêmement vigilant à ce que les répercussions sur le prix des mutuelles soient le plus faibles possible. Néanmoins, le budget qui aujourd'hui est alloué à la santé est un budget colossal.
Oui, mais vous savez ce que se disent les Français qui nous écoutent au fur et à mesure de l'émission, c'est qu'en fait tout ça, finalement, ce sont des hausses d'impôts déguisées pour les Français, que ce soit des retraités, ceux qui se soignent, ceux qui achètent des voitures, des hausses d'impôts déguisées en fait. Non.
On fait aujourd'hui au mieux pour préserver les domaines qui sont pour nous des domaines essentiels. Mais vous prenez la santé, par exemple. Je reviens sur mon exemple des indemnités journalières. L'État prend en charge, quand vous êtes en arrêt maladie, une partie de vos indemnités journalières. En 2017, ça coûtait environ 8 milliards d'euros par an à l'État. D'accord ? Aujourd'hui, donc l'année 2024, ça aura coûté environ 17 milliards. Parce que les absences ont augmenté et que ces absences durent bien plus longtemps que ce que c'était il y a quelques années. Bon, on voit bien que c'est une situation qui n'est pas normale et donc il est, je crois, légitime qu'on plafonne, par exemple, les indemnités journalières. Pour autant, je le redis, sur l'essentiel, nous préserverons évidemment la capacité de l'État à permettre aux Français de se soigner et c'est bien normal. C'est un budget difficile. C'est un budget difficile, mais sur les sujets de la santé comme sur l'éducation, on sera extrêmement vigilants. Et le débat se tiendra au Parlement.
Est-ce qu'il est si difficile, pardon, précisément, que ce budget, vous n'aurez d'autre choix que de le faire passer par 49.3?
Notre volonté, c'est vraiment de laisser le débat se faire.
C'est pas contradictoire. Vous pouvez laisser se faire le débat et choisir le 49.3 à la fin.
Il y a une certitude, c'est qu'à la fin, il faudra un budget pour la France. Ouais. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Du reste, le débat doit pouvoir se tenir autant que possible à l'Assemblée nationale et au Sénat.
Mais ça, le débat va se tenir. Mais est-ce que, vous, la possibilité est ouverte d'utiliser un 49.3?
On ne ferme pas la porte par principe, puisque à la fin, il faudra nécessairement un budget pour le pays. Mais ce n'est pas notre souhait. Notre souhait, c'est que le débat puisse se tenir jusqu'au bout, que les parlementaires puissent prendre leurs responsabilités, qu'on puisse voir et dire aux Français ce qu'est la proposition de budget qui aura été in fine proposée par l'Assemblée nationale et par le Sénat en sortie de commission et en sortie d'hémicycle. Ouais. Mais on ne s'interdit pas, par principe, d'avoir recours à un outil.
Mais quand vous voyez certains réfractaires dans la majorité, y compris par exemple Gérald Darmanin, dont vous êtes proche, qui dit qu'il envisage de ne pas voter le budget parce que les hausses d'impôts ne lui conviennent pas, est-ce que vous avez envie de leur dire revenez à la raison et rejoignez-nous?
La question que je pose aujourd'hui, c'est sommes-nous d'accord sur le constat? Sommes-nous d'accord pour dire que 6,1% de déficit cette année, ce n'est pas acceptable, que 7% l'année prochaine, si on ne fait rien, c'est courir à la catastrophe?
Donc Gérald Darmanin n'est pas lucide.
Pardonnez-moi, si la réponse est oui, on doit trouver 60 milliards d'euros en quelques semaines. Je ne dis pas que notre copie, elle est parfaite, et j'entends les critiques qui peuvent être formulées ici ou là sur la question des impôts, qui, je le rappelle, toucheront en priorité les plus fortunés et les entreprises qui font le plus de profits.
Touchera tous les Français.
Les hausses d'impôts, contributions exceptionnelles et ciblées, toucheront les Français.
Oui, mais il y a le malus sur les voitures, il y a les dépenses sur la santé, il y a le...
Donc, j'en reviens à votre question sur les critiques qui peuvent être formulées ici ou là. On a un budget qui est difficile, et on le sait. On a un devoir de responsabilité vis-à-vis du pays, parce qu'on ne peut pas laisser filer le déficit comme c'est le cas aujourd'hui. Et donc, face à cette réalité, Michel Barnier pose des propositions sur la table. J'entends que c'est difficile. Hein.
Non, mais au-delà du contenu, au-delà du contenu de la copie, certains dans votre camp appellent Michel Barnier, par exemple, à engager sa responsabilité dès le début du débat parlementaire, dans la mesure où il est impossible de trouver une majorité. Vu que vous êtes 213 sur 577, il n'y a pas de...
Pardonnez-moi, le respect du parlementarisme, c'est accepter de laisser le débat se tenir à l'Assemblée nationale, se tenir au Sénat, même si parfois on perd sur certains amendements, même si l'orientation prise n'est pas exactement celle que souhaitait le gouvernement, mais je crois que c'est sain. Et moi, je dis à tous ceux qui aujourd'hui font des propositions, font des critiques que je peux entendre sur le budget tel qu'il est proposé, si vous avez des idées pour faire différemment et mieux, nous sommes ouverts. Proposez-nous et on écoutera l'intégralité des propositions.
Donc tout sera ouvert au débat parlementaire dans les prochains jours en commission et ensuite en session, en séance publique. J'explique pour nos téléspectateurs. Une dernière question, Maud Bréjon. Un dernier mot des violences en marge d'une manifestation écologique en Gironde. Jordan Bardella a appelé le ministre de l'Intérieur à interdire les soulèvements de la terre, ce collectif aux modes d'action parfois radicaux. Quelles sont les suites envisagées après ce qu'on a vu hier en Gironde pour les soulèvements de la terre? On sait que Gérald Darmanin avait essayé de dissoudre ce collectif, mais que la justice l'avait débouté.
Oui. D'abord, ce qui s'est passé hier est inadmissible et incompréhensible. On ne peut pas se servir d'une cause écologique pour donner lieu à des violences. Et donc... Bruno Retailleau continuera à instruire le dossier. Maintenant, je ne peux pas vous faire de promesses sur cette question aujourd'hui, puisque comme vous l'avez dit, Gérald Darmanin a déjà tenté de dissoudre les soulèvements de la terre et que cette demande a été retoquée par la justice.
Merci Maud Bréjon, porte-parole du gouvernement, d'avoir été l'invitée de BFM Politique. Merci Amandine et Jules de m'avoir accompagnée, toute la régie, pour la réalisation de cette émission.